bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique, la première émission de Radio Ndeke Luka. Émettant en République centrafricaine, les jeunes sont à l'honneur. Nous parlons aujourd'hui de l'avenir de la République centrafricaine qui repose effectivement sur sa jeunesse. Deux grandes interrogations guideront le débat politique de cette semaine. Quelle formation aujourd'hui pour la jeunesse centrafricaine? Quelle est la place de la jeunesse dans la sphère politique du pays? En effet, des voix ne cessent de dénoncer le manque criant de formation professionnelle ou qualifiée au profit des jeunes centrafricains. L'unique université de Bangui ou bien du pays ne dispose pas assez de moyens pour remplir convenablement ses tâches. La majorité des étudiants sont des généralistes. Ainsi, pour en parler, le plateau de Patara fait place aujourd'hui aux jeunes centrafricains eux-mêmes, lesquels vont parler des mots qui minent leur avenir. Mais ce dimanche, Jocelyn Yangou-Bingui, bonjour et bienvenue dans ce débat pour la première fois.
Bonjour Armand.
Ancien jeune leader des étudiants et enseignant-chercheur à l'Université de Bangui, économiste, juriste, politiste, analyste, Ben Gassam, porte-parole du groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution de 2016, et journaliste indépendant, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando, bonjour à tous les auditeurs de Patara.
Atlem Sandrin Congo, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando et bonjour à tous les auditeurs de la Jeune Ndeke Luka.
Président fondateur du mouvement des jeunes intègres de Centrafrique et du collectif Zigele 2026. Et Monsieur Rock Baron Kunda Gbumbi, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Ndeke Luka.
Coordinateur de la plateforme Mbigazo qui soutient le pouvoir. Armando Nguendi, c'est moi tout de suite le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Merci beaucoup. L'actualité oblige, vous le savez bien. Les proches du pouvoir organisent ce matin à Bangui et dans certaines villes du pays des mobilisations pour soutenir l'édition d'une nouvelle constitution. Monsieur, autour de cette table, que vous inspire cette motivation? D'abord vous, monsieur Gbumbi.
Ouais, c'est Kunda Gbumbi, au fait.
C'est un nom composé, hein?
Oui.
D'accord, merci.
Cette mobilisation générale de la marche pour la nouvelle constitution témoigne de la volonté de la population à évoluer, à aller de l'avant avec la politique du gouvernement en place. Nous savons très bien que aussi la constitution de 2016 regorge également en son sein des dispositions qui ne répondent plus ou bien des institutions qui ne sont même pas fonctionnelles actuellement et qui sont dans la constitution. Et vu l'état de l'économie centrafricaine, le principe du développement voudrait c'est que la politique économique, qu'on régresse un peu la politique économique.
Le train de vie.
Pas le train de vie, mais le budget de l'État. Parce que le budget de l'État doit être revu en baisse. Enfin, les dépenses de l'État doivent être revues en baisse pour permettre d'économiser. Et lorsque nous avons une panoplie des institutions et des institutions qui se chevauchent dans leur fonctionnement, et du coup, ça nous amène à réfléchir sur l'avenir du pays, alors moi je pense qu'il faut à un moment donné prendre un recul pour pouvoir regarder un peu les choses en face et dire non, il faut qu'on aménage un peu les choses parce que toutes les constitutions au monde subissent des modifications. Ça, personne ne peut me dire le contraire ici, même si d'aucuns pensent que la constitution de 2016 est suffisamment bien pour que nous puissions y travailler avec, mais il y a des failles. Mais toutes les constitutions au monde subissent des modifications.
Mais est-ce que lorsque vous parlez de la réduction de l'économie du pays par rapport à la situation, vous voulez parler de ces institutions argentivores qui absorbent, qui bouffent beaucoup d'argent?
Oui, je vous donne par exemple l'article 73 de la Constitution qui institue le Sénat. Vous voyez déjà avec l'Assemblée nationale, on arrive même à peine de gérer ça. Alors que lorsque nous allons mettre encore le Sénat sera encore un budget supplémentaire pour l'État. Alors, ces institutions qui se trouvent dans la Constitution doivent être purement et simplement élaguées pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque le pays prendra un décollage économique qui sied, à partir de ce moment-là, on pourra penser à institutionnaliser ces institutions, si je puisse me permettre.
Est-ce que, par exemple, lorsque vous marchez pour soutenir la révision de la Constitution ou bien l'édition d'une nouvelle Constitution, est-ce que vous pensez aussi à mettre, par exemple, un paragraphe ou bien un article pour interdire la corruption?
Écoutez, la politique actuelle, c'est lutter contre la corruption, comme vous le dites, Armando. Cette démarche n'exclut pas la démarche que le gouvernement mène en ce moment pour lutter contre la corruption. Les institutions fortes sont vraiment une base pour la lutte contre la corruption. Donc, la corruption, c'est vrai, c'est un mot qui gangrène la société, comme toute société, les sociétés des pays développés, et tout comme les sociétés des États aussi en voie de développement.
Oui. On y revient, si ça vous va. On donne la parole à M. Congo sur cette question. La marche ici à Bangui est presque dans certaines villes de province, aujourd'hui en ce matin, pour soutenir l'idée de l'édition de la nouvelle constitution prônée par le gouvernement.
D'abord, la manière que le gouvernement a organisé ce matin la marche, c'était vraiment déplorable, quoi. Même d'après ce qu'il vient de dire, c'est pas normal, quoi. Et c'est pas le moment de dire qu'on pourrait réviser la Constitution. Le moment n'est pas encore propice, vu qu'il y a un tas de difficultés dans le pays, il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, les gens sortent pour dire qu'ils vont modifier la Constitution pour des raisons qui ne sont même pas fondées. C'est vraiment déplorable, quoi. Et aujourd'hui, le gouvernement exige, impose des directeurs généraux à des personnes vraiment légales qui devaient travailler pour le pays de sortir, faire des marches qui sont vraiment illégales dans la Constitution. Et je crois que ce n'est pas normal ce que le gouvernement vient de faire ce matin.
Ça, c'est votre point de vue, mais on va écouter M. Yangou Bengué sur cette question. Marche ce matin à Bangui, mobilisation à Bangui, mobilisation par exemple à Berberati, à Boire, à Bozoum, dans certaines villes de province, pour soutenir cette idée de la constitution, de la nouvelle constitution du gouvernement. Qu'en dites-vous?
Alors, je crois que la question d'une nouvelle constitution, ou soit de marche pour soutenir soit le changement de la constitution, a été l'objet de débats. Ça veut dire que ça fait partie des débats d'actualité. Et selon mes analyses en tant que politiste analyste, c'est normal aujourd'hui que l'opposition se soulève contre la révision de la Constitution. Et c'est aussi normal que le parti au pouvoir aussi défende. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cadre de la politique et nous sommes dans un état de droit. Ça veut dire que la présence de l'opposition, c'est pour aussi contrôler la gestion du pouvoir, tout comme ça se passe au niveau du Parlement, pour équilibrer un peu les choses. Et de surcroît, le but de l'opposition, c'est-à-dire un parti politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir et le gérer. Donc c'est normal qu'ils réagissent. Et du côté de la marche qui a été organisée, moi, je peux dire que ce sont les événements sociaux qui font avancer le droit, autant pour moi. Et en ce qui concerne le changement ou la modification de constitution, en tant que juriste, j'émets un peu de réserve ici pour accuser et l'opposition et la majorité. Pourquoi? Parce que selon moi, le peuple reste souverain et il restera souverain. Voilà mon avis par rapport...
Monsieur Ngassam, vous avez pris position officiellement. Vous venez de créer avec vos pairs la nouvelle organisation pour défendre la Constitution de 2016.
Oui.
Une fois que la Constitution de 2016 sera abolie, par exemple, votre organisation va résister?
Je vous remercie, très cher Armando, pour cette occasion que votre radio donne aujourd'hui aux jeunes centrafricains de s'exprimer sur l'actualité nationale. Moi, je crois qu'avant de répondre à votre question, qui est orientée vers notre plateforme, je voudrais répondre à la première question que vous avez posée ici à mes co-débatteurs pour savoir que pensons-nous de la manifestation tenue aujourd'hui à Bangui et dans certaines parties de la République centrafricaine. Armando, je pense qu'avant de commencer, je voudrais dire que modifier la Constitution, ce n'est pas un crime. La Constitution, c'est une loi écrite par des hommes. Si une loi est écrite par des hommes, cela veut dire que ça évolue avec le temps, que la Constitution peut être modifiable. Mais dans le contexte actuel de la République centrafricaine, je crois que tant dans la forme que dans le fond, le pouvoir en place a fauté. Je commence par la forme. Vous avez vu la marche qui s'est tenue aujourd'hui. C'est clair et net, nous assistons à une pure théâtralisation de la vie politique en Centrafrique. C'est des jeunes, c'est des adolescents qu'on soudoie, qu'on envoie dans la rue pour défendre ce qu'ils ne savent pratiquement pas. Moi, je pense que le président de la République actuelle est un professeur, c'est un universitaire. Il aurait pu faire preuve de hauteur politique et intellectuelle en convoquant toutes les sensibilités sociales et politiques de la République centrafricaine. Armando, vous êtes journaliste, vous savez que la question de la constitution est une question capitale qui engage la vie de toute une nation. Et on ne doit pas traiter de la question de la constitution dans la rue comme on est en train de le constater. Ça, c'est au niveau de la forme. Maintenant, au niveau du fond, quelle est la pertinence de la modification de la constitution dans le contexte actuel ? Le président de la République a prêté serment par deux fois sur l'actuelle constitution. C'est seulement aujourd'hui qu'il se rend compte qu'il y avait des imperfections dans la constitution. Le président Touadéra a été réélu en 2020. Mais quand il a été réélu là, il y a des défis auxquels il doit s'attaquer. Les défis sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Voyez-vous aujourd'hui ce que représente le pays? Les infrastructures sont à terre, l'économie est à terre. On ne tient pas compte de ces priorités. La priorité aujourd'hui, vous me dites que c'est de modifier la constitution. Un, cette modification que veut le pouvoir en place est inopportune. C'est inopportun dans le contexte actuel de la chose. Deux, la manière de le faire ne sied pas aux valeurs républicaines que défend notre constitution. Avant de chuter, vous avez posé la question de savoir que si la constitution du 30 mars 2016 venait à être abolie, est-ce que notre plateforme va baisser les bras? Nous ne baisserons pas les bras, Armando. Nous sommes en train de jouer notre rôle dans un moment précis de l'histoire de notre nation.
Mais vous avez vu aujourd'hui cette démonstration de force de ceux qui ont manifesté ce matin à Bangui. Est-ce que votre organisation va tenir face à cette situation?
Armando, vous le savez tous bien qu'il s'agit de la théâtralisation de la vie politique en Centrafrique. Vous avez couvert dernièrement la marche des peuples qui vous ont dit à votre micro qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis dans la rue. Donc, Armando, ne me dites pas qu'il s'agit d'une démonstration de force. C'est de la pure théâtralisation de la vie politique centrafricaine. Vous voyez ces deux poids, deux mesures qui existent aujourd'hui dans la vie démocratique de la République centrafricaine. Quand ce sont les militants de l'opposition démocratique ou de la société civile qui veulent marcher, on leur fait interdiction. Quand ce sont les soutiens du régime qui veulent le faire, c'est la police qui encadre. Je vous donne un cas précis. En venant à cette émission-là, j'étais avec mon chauffeur, arrivé au niveau du rond-point dit des Nations Unies, c'est la police qui barricade la route. Pourquoi? Parce que la police encadre cette manifestation tenue par les soutiens du pouvoir. Or, nous savons tous qu'il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui interdit toute manifestation publique et cet arrêté est encore en vigueur. Nous sommes...
Est-ce que, par exemple, vous, dans votre organisation, vous vouliez marcher une fois, on vous a interdit?
Mais Armando, soyons lucides. Combien de fois les militants de l'opposition ou bien de la société civile ont voulu tenir des marches?
Non, je parle de votre cas.
Nous, on ne l'a pas encore envisagé. Mais le moment opportun, on l'envisagera. Mais on connaît déjà la réponse. Hein. La réponse, on va nous envoyer les muscles de la gendarmerie nationale. On va nous envoyer les muscles de la police pour nous interdire de manifester notre droit constitutionnel. Et donc, on le sait. Ne le disons pas que c'est une démonstration de force, mais c'est une pure théâtralisation.
Parce que non, la manifestation ne concerne pas seulement Bangui, mais à l'intérieur du pays. Monsieur Kounda Goumbi.
Je voudrais rebondir sur les propos qu'a tenu le dernier intervenant, mon co-débatteur, tout à l'heure, pour dire que c'est une pure théâtralisation. Écoutez, je pense que c'est vrai, rester ici et porter des jugements, c'est facile. Mais lorsque vous vous approchez de la chose, lorsque vous appréhendez la chose, c'est là, vous comprenez, la quintessence même, la motivation qui ont poussé. Cette population, c'est la population. La constitution, c'est la volonté populaire. Ça vient du peuple. Il faut qu'une constitution vienne du peuple. Le texte, les textes, le contenu doit tenir compte des aspirations du peuple.
Donc,
la théâtralisation, notre problème... Non,
Jean-Pierre,
il ne m'écoute pas.
Quand je parlais tout à l'heure de... J'en arrive. Je parlais tout à l'heure de la démonstration de force parce que j'ai vu le Premier ministre, certains membres du gouvernement,
étaient
là pour soutenir cette action. C'est de ça que je disais tout à l'heure, M. Ben.
Merci beaucoup.
J'en arrive. Cette manifestation est constituée des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Parce que j'ai noté la présence du KNK, j'ai noté la présence de MLPC. Vous voyez, j'ai noté la présence de RDC. C'est des partis qui ont été représentés. Et donc, ça veut dire...
Dans cette marche de ce matin.
Même si, oui, vous allez suivre ça à la radio, le reportage. Il y a eu des représentants de ces partis qui ont pris
c'est
la parole.
C'est quel MLPC de Martin Ziegele ou MLPC de
monsieur... MLPC n'est pas une propriété de Martin Ziegele, tout le monde le sait.
Non, je n'ai pas
c'est
dit.
C'est un parti politique que, mais est-ce que vous qui le est savez, représenté par...
Mais vous le savez aujourd'hui qu'il y a deux tendances au sein du MLPC. Est-ce que vous le savez?
Oui.
MLPC, tendance...
Ça, c'est vous le savez? Oui. Ça, c'est des querelles internes, donc nous, on ne va pas se rendre.
Et donc, c'est le MLPC.
Ça, c'est leur cuisine interne là-bas. Nous, ce que nous remarquons,
c'est
que il y a eu MLPC là-bas. Parce qu'il y a un représentant de MLPC qui a pris la parole et il y a un représentant du KNK qui a pris la parole. Et donc, je me réserve ici.
Mais puisque c'est public.
De donner le nom.
Vous pouvez donner le nom.
Non, je renvoie ceux qui contestent la quintessence, même la motivation populaire de cette marche-là. Allez vérifier d'eux-mêmes. Même si je suis en face de moi avec quelqu'un qui se revendique de Ziegele.
Il n'y a pas ceci. On donne la parole à monsieur Congo.
Je m'excuse.
Monsieur Congo, vous voulez parler?
Je crois que ce matin, la marche qui a été tenue au niveau de la capitale, Bangui, tout était clair. Quand il nous disait sur le plateau présentement qu'il ne peut pas citer les noms, je vais lui dire que c'est qu'on est en train de dire, c'est pas normal. Nous sommes là en train de faire un débat, donc on devait être clair. Ce qui était ce matin, qui représentait le MLPC, il devait nous dire, c'était telle personne. C'est pas quelque chose...
C'était quelque chose qui ne devait pas nous dire.
Tout le monde, et c'est publié. On sait que présentement, c'est déjà publié, quoi. La personne qui était là, et l'autorisation du parti, la personne qui était venue représenter le parti, il devait nous montrer, c'était quelle personne qui était là présentement, quoi.
Ça, c'est et quand il parlait de interne.
Oui, c'est, je crois que c'est une cuisine interne. Ouais. Mais nous sommes là, c'est un débat intellectuel, c'est un débat public. Il faut qu'on dise la vérité parce que la population nous écoute et les jeunes aussi nous écoutent quand nous sommes là présentement.
Mais monsieur Yangou Bingui, sur cette question, les tendances aujourd'hui ou bien les jeunes s'affrontent sur cette question. Qu'est-ce qui pourrait advenir selon vous si on ne fait pas attention sur cette question de la modification de la Constitution ou bien de l'édition d'une nouvelle Constitution?
Alors, je crois, comme je disais tout à l'heure, accuser l'opposition ou accuser la majorité, j'émets de réserve parce que chaque camp, et nous sommes dans un état de droit dont chaque camp
tire le drap.
Oui, a ce droit de réagir. Et je crois, dans les principes généraux du droit, il y a un certain nombre de droits fondamentaux garantis à toute personne. Les libertés individuelles, les libertés d'expression, les libertés d'appartenance à un parti politique, les libertés de culte. C'est pourquoi, quand on constate, il y a des tendances. Il y a tendance MLPC, il y a tendance opposition, c'est pas trop, et puis il y a tendance majoritaire. Mais ce que nous sommes en train de craindre, c'est quoi? Vous voyez, en Centrafrique, l'adversaire politique devient souvent un ennemi. Voilà un danger que je vois. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes en train de faire un débat intellectuel, nous sommes en train de chercher à dégager un certain nombre de problèmes qui minent soit l'avenir de la jeunesse ou de notre pays. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre pays. Tout ce qu'on doit faire, on doit protéger deux choses. Il y a quoi? La RCA et le peuple centrafricain. Mais comme vous voyez aujourd'hui, on est en train de diviser sur beaucoup d'aspects. C'est normal, mais il faudrait que ça reste au niveau de débat et au niveau, je ne sais pas, de tout ce que nous faisons, mais pas en profondeur pour qu'aujourd'hui, certains soient des cibles. En ce qui concerne la Constitution, comme je viens d'en peine de dire, le peuple reste souverain. Si le peuple... Parce que je n'ai pas vérifié qui était sur terrain pour faire les marches, tout ça, ainsi de suite.
C'est tout le peuple, je vous rassure.
Selon l'information que j'ai, quand je quittais la maison pour venir, apparemment, il y a aussi des mouvements dans les provinces, ainsi de suite, tout.
Dans certaines villes.
Dans certaines villes. Alors, c'est pourquoi, toujours, ça ne va pas manquer. Il y a toujours opposition et il y a toujours ceux qui cherchent à se défendre. Mais faisons tout selon les règles du jeu pour éviter toutes les conséquences qui peuvent jouer négativement sur notre...
Monsieur Gassam, vous voulez réagir tout à l'heure? Je vous donne quelques secondes pour qu'on boucle cette partie pour entamer notre sujet du jour.
Je voulais rebondir à ce que mon frère d'en face disait pour soutenir la marche qui s'est tenue aujourd'hui. Disons que c'est toute la population qui s'était mobilisée.
Via leur représentant.
Laissez-moi vous m'exprimer. Je vous ai laissé tout à l'heure le temps de parole. Armando, ne nous détournons pas de l'essentiel. Moi, c'est avec beaucoup de peine que je suis en train d'évoquer ce sujet. Parce que quand je vois ces centaines de jeunes soudoyés, payés avec l'argent du contribuable centrafricain afin de sortir dans la rue, défendre une cause que eux-mêmes ne maîtrisent pas, ça me fait beaucoup de la peine. Parce que quand on se retourne, qu'on voit que après des années, après 50 ans,
nous n'avons qu'une seule université. Quand on se retourne, on voit que les routes en République centrafricaine sont en état de dégradation très avancé. Quand on se retourne, on voit que dans le panier de la ménagère, c'est la misère. Et qu'on ne peut pas utiliser l'énergie de cette jeunesse pour créer de la richesse, mais on envoie ces jeunes dans la rue pour défendre les causes de confiscation du pouvoir. Je vous dis, c'est des larmes qui coulent en m'exprimant ici. Et ça me fait beaucoup de la peine.
Vous avez déjà entamé le sujet du jour. Continuez dans ce sens. Est-ce que cela vous inquiète? Quelle appréciation faites-vous de l'éducation des jeunes aujourd'hui?
Merci beaucoup pour cette question, Armando. Je pense qu'il y a de cela quelques jours, j'avais délivré une tribune qui était devenue très rapidement virale sur les réseaux sociaux, où j'ai évoqué les questions, les défis auxquels la jeunesse centrafricaine fait face aujourd'hui. Et en m'exprimant ainsi, je pense que, comme je l'ai dit dans ma tribune, que depuis 30 ans, nos autorités, ceux qui gouvernent, ont sacrifié l'avenir de plusieurs générations. Il vous souviendra que depuis 30 ans, ce pays a connu des crises à répétition, des crises sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social, qui n'ont pas permis effectivement à l'État de développer une bonne politique, de relèvement social. Et aujourd'hui, cela a de l'impact direct sur notre jeunesse. J'ai dit dernièrement dans mes interventions que pour le moment, nous faisons face à un déficit de capital humain en Centrafrique. Et là, la Banque mondiale a dit dans ses derniers rapports que pour sortir ce pays de sa situation, il faut développer le capital humain centrafricain. Armando, je le dis ici que le constat en ce qui concerne l'avenir de la République, de la jeunesse centrafricaine est criard. Dans certaines parties du pays. Jusque-là, les gens ne partent pas convenablement à l'école. Nous avons un système éducatif fantoche qui n'est pas adapté aux réalités. Et vous l'avez si bien dit dans votre introduction aujourd'hui, que nos formations à l'université sont des formations généralistes, ce qui ne répond pas aux défis du 21e siècle. Moi, je crois que c'est des défis, c'est des problèmes auxquels un gouvernement responsable devrait s'attaquer que de vouloir changer la constitution, que de vouloir soudoyer les jeunes pour des fins inavouées.
La même question pour tout le monde. Monsieur Congo, vous avez quelques minutes comme les autres. Comment appréciez-vous le niveau éducatif des jeunes d'aujourd'hui? Cette même question, c'est pour faire le tour de la table.
Le niveau éducatif de la jeunesse centrafricaine d'aujourd'hui vraiment est très déplorable, quoi. D'abord, la formation. Au niveau de la formation, quoi. Beaucoup de jeunes ne sont pas bien formés. Vu que l'enseignant d'aujourd'hui remet d'abord l'argent devant, quoi. Et ça fait que la jeunesse centrafricaine a un problème de formation. Les centres de formation appropriés, c'est seulement à Bangui. Et dans l'arrêt pays, il y a un problème. Nos autorités d'aujourd'hui croient que la République centrafricaine se limite sûrement au niveau de la capitale, alors que c'est un sérieux problème. On a des jeunes qui ont la volonté d'être comme les autres jeunes du monde, mais ils n'ont pas cette opportunité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les centres de formation appropriés dans l'agri-pays pour puissent former les jeunes, comme nous sommes autour de ce plateau. Nous sommes là, en train d'échanger, alors qu'on a des jeunes éveillés, vigilants, qui ont vraiment beaucoup d'avenir, qui ont vraiment des projets pour faire changer l'image du pays, mais ils n'ont pas cette opportunité, parce que c'est là où se trouve, il n'y a pas de centre de formation. L'unique, l'université de Bangui, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un manque d'enseignants. Il n'y a pas l'endroit pour que les étudiants puissent s'asseoir normalement à faire les études. Il y a un véritable problème que le gouvernement ne voit pas sa main. Il remet en cause l'affaire de la Constitution ou d'autres problèmes qui ne sont pas vraiment très, très importants pour que la jeunesse centrafricaine puisse être devant, peut-être dans les années à venir. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse. Ça fait qu'aujourd'hui, la jeunesse centrafricaine s'est un peu séparée parce que beaucoup sont des analphabètes. Ils ne maîtrisent pas. Et le pouvoir en place a mis un système pour nous faire séparer, nous les jeunes, à travers la haine, la violence. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui.
Ça, c'est ce que vous avez dit. Monsieur Kunda Bumbi, vous soutenez les actions du pouvoir. Vous êtes coordinateur de cette plateforme dénommée Migazo. Vous voulez dire quoi par là sur cette question d'éducation des jeunes centrafricains? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, on parle du présent pour espérer l'avenir de la Centrafrique.
C'est une question très, très cruciale. Parce que déjà, on parle de l'avenir. Et si on parle de l'avenir, il faut d'abord revenir à la base. À la base, c'est-à-dire l'éducation. Aujourd'hui, le système éducatif comme contrairement à ce que disent mes prédécesseurs, il faut reconnaître les efforts que fournit le gouvernement pour pouvoir rehausser le niveau éducatif. La responsabilité en ce qui concerne le niveau des élèves ou bien des étudiants actuels incombe et aux parents et à certains enseignants. Parce qu'il faut
comment?
Le dire. Je dis et aux
parents d'abord.
Aux parents.
Pour quelle raison?
Oui. Il y a certains parents qui ne surveillent pas correctement leurs enfants comme il se le doit, qui ne suivent pas leurs enfants dans leur établissement, qui laissent faire les enfants. Ça, il faut se le reconnaître, c'est ça. Parce que le gouvernement peut mettre les moyens en place. Mais s'il n'y a pas un suivi au niveau des foyers, au niveau des ménages à la maison, et du coup, le niveau de l'enfant chute. Parce que je prends mon cas, par exemple, lorsque j'étais encore sur les bancs de l'école, au niveau fondamental, eh bien, si je vais à l'école, je retourne à la maison, on me suit à la maison. Mes parents me mettent la pression de réciter même mes leçons, jusqu'à même réciter mes leçons. Chaque matin, ou bien chaque soir avant de dormir. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, les parents ont tendance à abandonner cette pratique. Et de laisser les enfants devant la télé toute la journée, toute la nuit. Et puis demain, l'enfant va à l'école, l'enfant va apprendre là-bas, et puis il revient à la maison. Et puis bon, du coup, il ne révise plus. Et ça joue énormément sur le système éducatif. Et donc, il faut que les parents aussi s'impliquent. Il faut que les parents s'impliquent à la base pour recadrer, afin de trouver des solutions à cela. Et maintenant, du côté de la qualité de la formation, par exemple, on dit le niveau universitaire, la formation universitaire. Écoutez, il y a une filière professionnelle au niveau de l'université. Il y a par exemple, l'Institut supérieur de technologie qui forme les gens professionnellement. Ça, il ne faut pas qu'on se voit le visage sur ça. Il y a des efforts qui se font actuellement par le gouvernement. Vous allez dans les arrière-pays, il y a l'ACFPE qui est ouvert pour donner la possibilité, je prends par exemple de la préfecture de la Sangambaïri, il y a l'ACFPE là-bas qui forme les jeunes professionnellement. Il faut que vous vous informiez très bien avant de vous prononcer sur certains sujets. Parce que le gouvernement fait des efforts, on le reconnaît, mais il y a encore des manquements qui dus au fait de l'insécurité dans certaines régions qui fait que le système éducatif dans ces régions-là est encore qui flotte encore.
Oui, mais monsieur Yangoubengui, vous avez terminé le temps. Je donne la parole à vous, monsieur Yangoubengui. Vous êtes en même temps enseignant-chercheur, jeune à l'université de Bangui. On accuse la formation au rabais, le climat ou bien le tableau, le plateau technique chez vous, ça pose problème.
Je crois que la question de formation, c'est une question dont je ne cesse d'en parler. Pourquoi? Parce que le développement d'un pays ne se résume pas sur le fait d'avoir trop de richesses. Selon moi, le premier facteur de développement, c'est d'avoir des ressources humaines efficaces.
Capital humain.
Oui. Et la question de capital humain est cruciale. D'ailleurs, le cas de la RCA, on a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui nous manque, selon moi? C'est des ressources humaines efficaces. Il y a plein de capital humain. Donc, l'éducation partout, d'ailleurs, ça a daté depuis. On parle de formation au rabais. Alors, je me pose la question, à qui incombe la responsabilité de cette question de formation au rabais? D'abord, les parents. Vous savez que les parents, hein, Proverbe 22:6 dit quoi? Élève l'enfant selon la voie pour lui, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais les parents ont démissionné de leur responsabilité aujourd'hui. S'occuper de l'éducation des enfants, non, c'est pas ça. D'ailleurs, l'éducation ou la formation, ça ne fait pas partie des priorités, même de certains parents. Et l'école en tant que telle. Vous savez que l'école a démissionné même de ses responsabilités. Il y a eu une désorientation. Pourquoi? Parce que l'école, qui est une institution, doit contribuer à quoi? À la formation de la personnalité de l'individu. Qu'est-ce qu'on doit devenir? On doit se poser la question, quel type de population, quel type de jeunes on veut avant de mettre en place une politique pouvant permettre, hein, une politique éducative pouvant permettre d'améliorer un peu les choses. Mais je suis désolé du fait que l'école d'aujourd'hui, avec un système éducatif qui ne cesse de doter le pays que par des diplômés et non des compétences, ça pose problème. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais je vous assure, c'est pas ça. Et la politique, la responsabilité aussi, c'est la politique, parce que la politique, à un niveau aussi, s'est désengagée de ses responsabilités. Pourquoi? Parce que pour former les gens, il faut des moyens, les infrastructures. Par exemple, lorsque vous parlez de l'unique université, l'université a été construite depuis, mais la capacité d'accueil de l'université était limitée. Et avec la croissance démographique, la population augmente. Au fur et à mesure, il y a un nombre qui augmente. Que faut-il faire? Il faut des infrastructures. Mais je suis désolé de constater que depuis même, pas aujourd'hui, depuis, c'est que l'éducation ne fait pas surtout partie de la priorité de nos gouvernants. Et d'ailleurs, Quand vous voyez même les budgets alloués à l'éducation, c'est négligeable. Et la question de formation, sincèrement, je suis désolé du fait que vous voyez aujourd'hui, les entreprises sont en quête des compétences. Pendant ce temps, il y a un nombre, il y a beaucoup de jeunes diplômés, je peux dire, qui sont à la recherche d'emploi. Mais les entreprises cherchent encore les employeurs. Vous voyez, c'est paradoxal. Donc, c'est pour dire que le système éducatif de notre pays, vraiment, c'est un système à refaire pour que ça contribue à la formation de personnalité de l'individu et afin de permettre un bon élève, pouvant permettre à nous tous de garantir un avenir meilleur.
Quelques secondes, monsieur Koundaboumi, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir par rapport aux questions d'infrastructure. Au niveau de l'université, aujourd'hui, l'université est un chantier. Faites un tour, vous allez voir. C'est un chantier par rapport à la capacité d'accueil. Au début, c'était, comme vous l'avez dit, l'université avait une capacité d'accueil limitée. Et lorsque le gouvernement se rend compte que plus il y a la croissance démographique au niveau de l'université, plus il est en train de faire des efforts pour pouvoir mettre en place des infrastructures.
Toujours pour l'unique université de Bangui.
Justement, il y a pour la construction des autres universités, c'est des projets en cours. Et d'ailleurs, dans très bientôt, je vous rassure que les choses vont bouger.
Dans
les
bientôt, choses. C'est quand janvier, février, oui. 2000, combien
je dis
on
que
va c'est, la précision poursuivre.
C'est dans très bientôt. Dit. Cette
on
question,
va,
vous allez vous allez
checker.
On veut checker ce que vous dites.
Oui. Puisque vous parlez en lieu et place de sécurité, c'est pourquoi je pose cette question. Monsieur Gassam, quelques secondes, vous voulez réagir?
Oui, je veux réagir. Si vous pouvez me laisser encore quelques secondes.
Allez-y, je chronomètre.
Oui, merci. J'ai été vraiment très touché par le développement de mon frère. Si vous pouvez me rappeler le nom.
Monsieur Yangou Bingui.
Je suis vraiment très touché de savoir qu'il y a des jeunes, il y a des Centrafricains qui sont aujourd'hui conscients de ce que nous vivons. Alors, Armand, je pense que quand vous, Radio Nekeluka, m'avez contacté pour participer à cette émission, c'est avec beaucoup de sens de responsabilité que j'ai accepté de venir. Et comme on est là, on n'est pas là pour divertir l'opinion, on n'est pas là pour porter de faux témoignages, mais poser les vrais problèmes, essayer de proposer des solutions pour permettre à nos autorités de changer le cours des choses. Alors, j'ai quelques pistes de solutions à donner par rapport au thème de ce débat. Premièrement, je m'aligne avec M. Yangou Bingui pour dire que le système éducatif centrafricain est à revoir. Ça entièrement, c'est une vérité. On doit l'adapter aux défis de notre ère. Ce système éducatif actuel ne cadre pas avec les réalités du 21e siècle. La preuve, il a donné un exemple illustratif. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les entreprises cherchent des employés presque tous les jours. Mais
ils sont pleins, mais on ne les trouve pas. Les employés sont pleins.
Les diplômés sont là. Ils ont juste le papier, ils ont juste le diplôme, mais ils n'ont pas les compétences. C'est une chose d'avoir les diplômes, mais c'est une chose d'être qualifié et de faire son travail. C'est ce que je voulais relever. La deuxième chose, je rejoins toujours M. Yangou Bingui pour dire, mais pour développer l'éducation, pour développer la jeunesse, mais il faut développer les structures éducatives. C'est inadmissible que 50 ans après, nous ne disposons que d'une seule université. Autant mieux pour être cohérent, ne disons plus université de Bangui, disons plutôt université de Centrafrique. Parce que celui qui est à Bambari, s'il décroche son bac, il doit venir à Bangui pour étudier. Et s'il n'a pas de parents ici. Mais prenez un pays comme le Cameroun qui est juste à quelques kilomètres de nous. Il y a une université à Maroua, il y a une université à Douala, il y a une université publique à Yaoundé. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation de la formation universitaire. Et moi, ça fait une honte pour le pays que nous avons des universitaires à la tête du pays et qui ne pensent pas à développer ces types de projets de société. Armand, je suis en train de finir. Il y a aussi un point crucial qui justifie aujourd'hui la baisse de niveau, mais c'est la question de la formation des enseignants. Nos enseignants sont très mal formés. Je le dis avec tout le respect que je dois à M. Yangou Bingui. Cela ne veut pas dire que c'est tous les enseignants qui sont pourris, mais quand tu prends au moins sur les 100%, au moins 80% de ces enseignants-là sont très mal formés.
Ah bon?
Déjà, ils s'expriment très mal dans la langue d'enseignement, c'est-à-dire le français. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner à nos jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont donner à nos enfants? Donc, la formation des enseignants aussi, c'est à revoir.
Donc, il faut revoir l'éducation des jeunes, mais aussi de ces enseignants.
Oui, faire le recyclage des enseignants en République centrafricaine, parce que ces enseignants sont, pour la plupart des cas, auteurs des actes de corruption, comme l'a si bien soulevé
Monsieur Kongo,
ici à mes côtés. Ils sont souvent auteurs de harcèlement sexuel. Mais sur Nekeluka, il y a des reportages qui disent que les professeurs, les enseignants harcèlent les étudiants sur le campus universitaire. Je n'invente pas ces réalités, c'est des faits qui sont dits sur la radio. Il y a eu des témoignages de Kelou qui avait fait des reportages sur ça. On doit s'attaquer à ces choses que de divertir l'opinion.
Oui, monsieur Congo, quelques secondes, je vous vois.
Oui, je voulais réagir un peu sur ce que mon frère...
Monsieur
Kunda vient de dire qu'il y avait quelques aménagements au niveau de l'université. Mon frère, soyons véridiques et soyons sincères. Nous sommes là devant le plateau. Si demain, c'est nous qui serons là à la tête de notre cher beau pays, la RCA, il faut que, si on voulait parler, il faut qu'on dise la vérité. C'est pas parce que tu es là.
Mais c'est une vérité, non?
C'est pas une vérité absolue. Je te dis que c'est pas une vérité absolue.
Les infrastructures sont en construction, tout le monde voit ça.
Quand tu essaies d'aller au niveau de l'université, essaye de voir, c'est les salles de classe qui sont en train de construire. Je sais que même le studio là, c'est un peu vaste. Essaye d'aller regarder, faire le tour. Moi, je suis toujours à l'université, je suis toujours avec les étudiants. Va voir des conditions avec lesquelles les gens essayent de faire des cours. C'est vraiment déplorable. Ça ne représente même pas un pays, ça ne représente même pas, l'université de Bangui qui disait que Bukassa avait conduit, il y avait tant d'intellectuels. Si aujourd'hui, le président de la République, M. Fossin Akwa Souadéra, je crois que lui aussi est le fruit de cette université. Lorsqu'il avait prêté serment, qu'est-ce qu'il disait pour l'éducation? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait de bon comme éducation que tu pourrais me dire sur ce plateau? Il n'a rien fait du côté de l'éducation. Il n'y a pas eu avancée. À chaque fois, on parle. À chaque fois, on prend des fausses images. On dit que non, ça, c'est l'amélioration. On va faire ça. C'est du faux. Non, il faut qu'on soit sincère.
Mais oui, mais comme nous avons posé le décor de ce désagrément, de ce délabrement du système éducatif, que faut-il faire pour les autres jeunes, cadres ou intellectuels, afin de mieux servir de leçon ou d'encouragement pour les autres? Faut-il faire pour ceux qui font un peu d'efforts, qui sont là, qui ont travaillé, qui ont eu un peu de diplôme, qui peuvent mieux faire? Que faut-il faire pour les autres là, ceux qui ont quand même les bagages?
Oui, mais c'est ce qu'on dit, il faut qu'on essaie de revoir un peu la formation, quoi, et essayer aussi d'orienter.
À quel niveau, s'il vous plaît?
Au niveau du fondamental,
fondamental 2.
Parce qu'on dit faut qu'on revient un peu pour revoir la formation, la qualité. Et aussi, cette formation qu'on donne, il faut qu'il y ait aussi une politique. Il faut qu'il y ait une politique pour mettre sur le marché d'emploi des gens compétents. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas une très bonne politique, il y a des gens qui sont compétents quand tu ressors de l'université, il n'y a pas besoin d'emploi. Il y a des gens qui ont fait le droit. Mais aujourd'hui, la personne se retrouve à faire des peintures. Parce qu'il n'y avait pas eu une très bonne politique du côté du gouvernement, de nos politiques.
Monsieur Yangou Bengui, sur ce qu'il faut faire pour ceux qui font un peu d'efforts pour que le gouvernement puisse les encourager, même pas le gouvernement, mais les autorités ou bien la République.
Je crois que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la motivation. En ce qui concerne la motivation, il y a la motivation verbale, il y a la motivation soit financière. Je peux vous dire que c'est vrai, quelque part, tout le monde dit que la formation au rabais, les étudiants sont africains, ont des niveaux bas, mais ce ne sont pas tous les étudiants. Il y a certains qui font des efforts. Dès que hier, avant de délibérer le baccalauréat, on a dit, la liste des, ça dit ceux qui ont eu 14. On a appelé certaines personnes, 14. Ceux-là, là, qu'est-ce qu'on doit faire de ceux-là? À l'université, chaque année, il y a des meilleurs. Alors, moi, je vois, il y a des bourses. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes en train de nous soucier sur la question de relève. Pourquoi? Parce que ceux qui ont géré le pouvoir, ils ne vont pas rester éternellement. C'est pourquoi il y a l'éducation qui est là, c'est pour former, pour qu'il y ait de bons relèves. Mais quel type de relève nous allons faire? En ce qui concerne les gens, qu'est-ce qu'on doit faire de ceux-là? Je crois que c'est de les motiver. Les motiver, c'est quoi? On peut leur donner des bourses. Ça dit chaque année, il y a des meilleurs, on peut recenser dans les facultés. On peut avoir des meilleurs étudiants. On peut leur donner des bourses pour sortir, les former et après, ils reviennent. C'est possible. Et d'autre part aussi, même de la part des autorités, on peut leur offrir quoi? Des documents. Ça dit juste des gestes symboliques qui peuvent leur permettre de continuer davantage. Donc, ce que je peux dire concernant ce qu'on doit encourager, je crois, c'est un peu ça.
Oui, monsieur.
Merci. Moi, je pense que l'appel doit être lancé beaucoup plus envers les parents. Parce que j'ai suivi dans le développement ici tout à l'heure d'un des co-débatteurs que les parents se sont désengagés de leurs responsabilités. Enfin, certains parents, on va dire ça comme ça, se sont désengagés de leurs responsabilités du suivi de leurs enfants. Parce que aujourd'hui, les enfants se croient beaucoup plus libres que d'étudier. Les enfants consacrent beaucoup leur temps à s'amuser que d'étudier. Je pense que cette responsabilité est comme et aux parents et aux enfants.
On parle de l'encouragement de ceux qui font un peu d'effort.
Justement. Et parmi ce lot, il y a ceux qui font des efforts. Et généralement, ceux qui font des efforts se retrouvent dans la plupart des cas dans des familles aussi très 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 défavorisées.
Oui.
Et donc la possibilité est donnée à ceux-là d'avoir des bourses. Et d'ailleurs hier
dans il faut qu'il y ait une bonne sélection.
Voilà.
Pour prendre hier dans la place qu'il faut.
Oui, justement hier dans la conférence de presse du ministre de la Jeunesse, il a fait mention d'une bourse qui est à la disposition de la jeunesse maintenant pour que le jeune, il faut que les jeunes aillent s'informer
pour la Corée du Sud.
Oui, pour la Corée du Sud, que il y a une bourse disponible pour aller étudier, suivre une formation professionnelle de 4 ans, 5 ans, ça dépendra du niveau. Mais il y a un critère de sélection. Et ça, il ne faut pas qu'on se voie le visage. Aujourd'hui, tu peux avoir la bourse, tu as le diplôme, comme on le dit ici, il y a des diplômés, mais ce n'est pas tout le monde qui mérite le diplôme. Et les étudiants, eux, veulent maintenant acheter les notes. Ils ne veulent plus étudier. Les gens ne veulent plus étudier. Les gens veulent acheter des notes. Les gens veulent la facilité. Alors que il faut toujours se battre. Nous autres, on a eu à se battre pour avoir nos diplômes par la sueur de nos fronts. Il faut que les gens se battent pour avoir le truc pour mériter. Mais aujourd'hui, si on parle du taux de chômage élevé, mais ce n'est que normal. Lorsque tous les
ça vous avez déjà évoqué. Vous avez déjà évoqué.
On passe maintenant les tests.
Oui.
Bon, si les gens échouent. Vous voyez,
M. Koundaboumbi, vous avez déjà évoqué, on parle maintenant de l'encouragement de ceux qui font un peu d'effort,
oui, M. Gassam. Oui, je pense que ce sujet, il est capital et j'ai tout naturellement mon mot à dire là-dessus. Moi, je pense que, à l'opposé demain qu'aux débatteurs, je pense que l'État centrafricain doit aujourd'hui jouer son rôle en promouvant un modèle social basé sur les valeurs. Basé sur les valeurs. Le cri de cœur de mon collègue d'en face est tout aussi pertinent. Armando, aujourd'hui, il faut dépolitiser l'octroi des bourses en Centrafrique. On sait que les bourses existent. Il y en a pour la Roumanie, il y en a pour la Russie, il y en a pour la Corée du Sud. Mais comment les gens font pour acquérir ces bourses? C'est là où se trouve toute la question. Il faut dépolitiser l'octroi des bourses.
Rien n'est politisé.
Commençons à toujours dire quand vous parlez,
il ne faut pas mettre dans la tête de la jeunesse que la bourse est politisée. Non, ça
mais
c'est
monsieur Koundaboumbi. Regardez, quand vous parlez,
monsieur Koundaboumbi, calmez-vous.
On peut tenir un débat serein dans.
Allez-y, reprenez.
Juste pour vous dire que
quand vous parlez, j'ai tout le respect de vous suivre. Ayez du respect.
Monsieur Koundaboumbi, je vous retire la parole.
J'étais en train de dire, et il ne va jamais me perturber, je vais encore le redire, il faut dépolitiser l'octroi des bourses en Centrafrique. L'État doit promouvoir un modèle social basé sur les valeurs de probité morale et intellectuelle. On ne doit pas seulement octroyer les bourses à une catégorie sociale de personnes. La bourse doit appartenir à tous les jeunes qui sont excellents dans leur domaine. Armando, c'est avec beaucoup de pincement de cœur que je dis ici que nos gouvernants ont renversé l'ordre social en Centrafrique. Maintenant, là, si tu n'es pas dans un parti politique qui gravite autour du pouvoir, tu n'as pas droit à bénéficier des avantages sociaux. Que l'État est censé te donner. Pourquoi ça doit être comme ça? Nous devons changer cette manière de faire. On doit promouvoir l'excellence. On doit promouvoir l'excellence et à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Comme vous l'avez dit, il y a un autre constat. Le peu de jeunes éveillés ou instruits sont nommés à base d'appartenance politique ou au détriment des autres. Le faisant, ne croyez-vous pas que c'est ce qui pousse les autres jeunes à croire que leur réussite réside seulement derrière les hommes politiques en les soutenant? D'abord, je donne la parole. Vous voulez prendre la parole? Qui veut la prendre?
Ça rejoint ce que je venais à peine de dire. Votre question tombe à point nommé. J'étais en train de le dire ici que nous devons promouvoir l'excellence à tous les niveaux. On connaît les pratiques qui se font depuis toujours. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui que ça se passe. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui, mais c'est depuis toujours. Pour accéder à des hauts postes, il faut militer dans tel parti politique, il faut aller faire la courbette devant tel ministre. Ces pratiques-là, ça détricote les fondements de la République centrafricaine. Notre devise dit unité, dignité, travail. Maintenant, on doit renverser ça. Parce que, regarde, depuis plus de 30 ans, Armando, les gens ont renversé l'échelle sociale en République centrafricaine. Les jeunes, ils ne croient plus en la réussite à travers l'effort. Ils pensent que pour réussir, il faut sortir dans la rue, faire du bruit, marcher, prendre des armes, militer dans les sociétés civiles fantômes pour accéder à ces choses-là. C'est avec beaucoup de pincement de cœur. Et moi, j'ai dit dans ma dernière tribune que ça, là, on est en train de décourager les jeunes. On est en train de détruire l'espoir des jeunes. Ces choses-là doivent changer.
Monsieur Congo.
Oui, je crois que pour ce problème, c'est depuis très longtemps que beaucoup de jeunes qui sont vraiment incompétents, lorsqu'ils soutiennent un politique ou un parti politique, et après, il y a des récompenses. Parce qu'on parlait des récompenses, quoi. C'est-à-dire qu'on les nomme dans des postes, pas des décrets ministériels ou des décrets présidentiels, quoi. Et c'est ce qui pose problème. Ça fait que leurs compétences ne prouvent pas là où ils travaillent, quoi. Et c'est ce que nous-mêmes, on a l'habitude de revendiquer aux hommes politiques, quoi. Il y a un adage qui dit « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Oui, aujourd'hui, je suis là, je vais militer pour telle personne. Si je ne suis pas compétent, il ne faut pas que la personne, comme que j'ai travaillé, comme que j'ai fait quelque chose pour lui, puisse me mettre quelque part. C'est mieux de me faire former ou de m'envoyer de faire des formations. Et après, je pourrais revenir que de me nommer et que j'ai des vides. C'est ce qui pose problème. Et présentement, pour l'année précédente, je crois qu'on avait eu à faire beaucoup d'échanges avec les jeunes pour ces situations. Et ça fait que beaucoup de jeunes désœuvrés, des jeunes qui ne sont pas éclairés aujourd'hui, quand tu les trouves dans les rues, ils te disent que non, moi je vais faire tel, je vais soutenir telle personne pour que la personne puisse me nommer soit premier ministre, quoi. Et quand il va te dire... Tu vas dire, mais pourquoi tu te dis comme ça, mais tu n'as pas vu celui-là. Lui aussi, il a milité pour telle personne. Et aujourd'hui, il se retrouve à la présidence. Et aujourd'hui, il se retrouve au niveau de la primature. Aujourd'hui, il se retrouve au niveau de tel ministère. Alors que de parler que non, bon, moi, je vais t'accompagner. Moi, je vais militer pour toi. Mais en récompense, il faut me former. Parce que j'ai vraiment l'incapacité. Je n'ai pas la force. Là où tu voulais me mettre, non, pas mon endroit.
On écoute M. Kounda Gbumbi.
Moi, je dis que les nominations au poste politique relèvent du pouvoir discrétionnaire de son auteur. Parce que le président nomme qui il veut, quel tel ou tel poste qu'il veut.
Mais lorsque la personne est incompétente,
on ne peut pas discuter pouvoir discrétionnaire du président de la République ou bien du Premier ministre, on ne discute pas ça. Ça, c'est juridique. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui il veut à tel poste.
Mais oui, c'est ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'on peut nommer comme... Et donc, il en va du pouvoir discrétionnaire du président. Est-ce que le président peut nommer, par exemple, un ministre, quelqu'un qui ne sait lire et écrire, par exemple?
C'est toujours de son pouvoir discrétionnaire. Il voit en la personne une qualité. Vous voyez, non? C'est une qualité que lui seul, il voit en la personne qu'il nomme. Et lorsque tu es nommé, peut-être ministre de
l'éducation.
Mais tu es entouré des techniciens, naturellement.
Même si tu ne sais pas lire et écrire, c'est ça?
Non. Est-ce que, à notre.
C'est un exemple pour que vous puissiez développer votre idée.
Pour prendre un portefeuille ministériel, il y a maintenant des critères. Il y a des critères, monsieur Armando, vous le saviez. Il y a des critères maintenant pour accéder au poste du ministre. Il y a des critères pour accéder à un certain nombre de fonctions. Il y a des critères.
Les gens donnent leur CV.
Et donc, l'auteur de l'acte.
Permettez-moi quoi.
L'auteur de l'acte.
Ce qu'il est en train de dire quand il parle de critères, moi je dirais que non, je ne dis pas non.
Oui, mais on a fini d'abord.
Permettez-moi.
Qu'il finisse d'abord, je vous en prie. Oui, allez-y, monsieur Kounda.
Il y a des critères. Il y a des critères pour chaque poste. Et maintenant, ces critères, c'est l'auteur de l'acte qui évalue.
Ça, vous l'avez déjà dit.
Voilà.
Vous l'avez déjà dit. Oui,
ça relève du pouvoir du secrétaire.
Oui, monsieur Congo, vous voulez répondre quelques secondes pour que je donne la parole à monsieur.
Je voulais remonter un peu quoi. On a vu des ministres dans ce pays qui ne savent pas lire. Et quand il va me parler que des techniciens, non, les techniciens ont
l'intérêt. Ministres qui ne savent pas lire.
Oui, qui ne savent même pas lire, qui ne savent même pas écrire. Parce qu'ils étaient.
Vous voulez parler
du président de la République.
De ce régime ou bien dans
oui,
le passé.
De ce régime, on a vu. De ce régime.
Non.
Et aujourd'hui, il nous parle des techniciens.
Non, ça,
les techniciens ont leur travail à faire. Quand tu es nommé ministre, tu as une responsabilité. Tu devais te mettre devant.
Il ne faut pour pas prouver qu'on se parle pour le plaisir de parler. Il n'y a pas un ministre qui est analphabète, non. Il ne faut pas parler pour le plaisir de parler.
Nous sommes sur les hommes de la radio. Dans ce pays, il y a des gens. Il y a des personnalités qui étaient nommées. C'est qui était nommé seulement par la volonté du pouvoir.
Monsieur, informez-vous suffisamment sur
Monsieur Yango, nous sommes tellement informés.
On donne la parole. Je vous coupe, vous deux. On donne la parole, Monsieur Yango Bengue.
Je crois que c'est des comportements qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je peux citer beaucoup de choses. Depuis même l'époque Kolimba, je peux prendre ici. Il y a toujours la tribalisation de l'administration. Ça ne manque pas. Et toujours, quand il y a des gens qui militent dans un parti politique, toujours il y a des récompenses. Ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. C'est pourquoi vous voyez que les gens sont motivés pour se donner, pour défendre les causes de leur parti, que ce soit l'opposition, que ce soit... Pourquoi ? Parce qu'on constate que l'opposition aujourd'hui va devenir quoi ? La majorité. C'est les mêmes choses. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est quoi ? C'est vrai, c'est pas aussi mauvais de récompenser. Mais il faut savoir récompenser. Ça veut dire quoi ? Si nous nous basons sur des critères compétences, je crois que ça peut aider. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, comme a dit mon co-débatteur ici à mon côté, nommer une personne, ça relève en tant que juriste de pouvoir discrétionnaire de l'État, du président.
Ou de l'auteur.
Ou de l'auteur, hein, de la... Ça veut dire, il peut, par exemple, pour le président, je voudrais parler sur le cas du président. Il peut nommer sa maman, il peut nommer ses parents. c'est ça le sens de pouvoir discrétionnaire là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Ça, c'est du point de vue juridique. Mais
politique,
ça dit, du point de vue réaliste, il faut que nous nous basions sur les critères compétences. Pourquoi ? Parce que quand on nomme une personne, il faudrait que la personne te protège. La protection, c'est quoi ? C'est quand la personne est compétente, fait bien son boulot. Mais je crois qu'il protège la personne, elle protège la personne qui la nomme. Donc, c'est pourquoi je vois que ça, c'est pas un truc de
jeu. Le temps nous fait défaut, je vous en prie, désolé. Une dernière question pour chacun. 5 secondes pour que vous donnez votre point de vue. Quel commentaire faites-vous de cette assertion, souvent utilisée par les politiques ? La jeunesse centrafricaine est toujours manipulée dans presque toutes les situations ou crises que le pays a connues.
Oui, c'est bien entendu une triste réalité, cette situation. La manipulation, on en a la preuve aujourd'hui à travers cette marche tambour battant organisée pour défendre la Constitution. C'est bien dommage. Armando, pour qu'on puisse éviter à ce que la jeunesse soit manipulée, il faut qu'on investisse dans l'éducation. Tant qu'on n'investit pas dans l'éducation, la jeunesse sera toujours manipulée. Parce qu'il y a un adage, un passage biblique qui dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ».
Monsieur Kongo, seconde.
Oui, je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une vision à travers les jeunes d'avoir fait quelque chose. Parce que si les jeunes ne font toujours rien, ils seront toujours manipulés. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une très bonne politique.
Monsieur Koundagoumbi.
Moi, je pense que la question des manipulations, non. Il faut des fois se dire... Lorsque les jeunes militent, il faut voir aussi l'aspect de la motivation. Il y a un cri de ras-le-bol que la personne ressent en elle-même. Et lorsque il voit un leader qui incarne l'idéologie qu'il veut défendre, il suit. Moi, je pense qu'il n'y a pas de manipulation.
Monsieur Yango Bungé.
Je crois que la question de manipulation, là, ça ne manque pas. Du côté opposition, on manipule. Du côté gouvernemental, on manipule. Mais le problème, ce n'est pas ni l'opposition, ni... le pouvoir en tant que tel, mais la jeunesse là. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et comment l'obtenir, car notre vie dépendrait de notre vision et surtout de notre décision.
Et c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Vous l'avez déjà suivi par plus de 2 millions d'auditeurs. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres d'ici et d'ailleurs. Nous avons parlé de l'avenir de la jeunesse et sa place dans les milieux politiques du pays. Merci à nos invités. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end. Portez-vous bien car on ne vit qu'une seule fois. Je vous aime tous. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. La partie technique était assurée par Anne-Alix Pounemati. Au revoir.